10h, 11h30.
Cédric Wauthier
sur la première.
Comment arrêter de se dire il faudrait que, oh, j'aimerais bien un jour partir à vélo. Comment, eh bien, oser ce voyage à vélo? On va en parler dans quelques instants avec, entre autres, Laurent Bellandeau, auteur de cet ouvrage Vélo Nomade, du cyclotourisme au bikepacking, un livre qui va revenir, bien, sur l'idée même du voyage à vélo, ce que ça peut amener, sur les préparatifs, le matériel, ce que l'on doit emmener ou pas, les itinéraires aussi, puis toute une série de trucs et astuces. Laurent sera avec nous en duplex depuis Paris. Si vous aussi, eh bien, vous vous êtes lancé un moment dans l'aventure du voyage à vélo, que ce soit seul ou même en famille, si vous avez décidé, eh bien, cet été de tenter l'expérience, mais n'hésitez pas, surtout, faites-nous part de vos témoignages, de vos retours d'expérience en formant le 6031, en nous envoyant un SMS donc au 6031, ou alors vous pouvez nous envoyer un courriel à tendancepremière@rtbf.be, tendance au pluriel, première évidemment au singulier, puis encore la page Facebook de Tendance Première sur laquelle, eh bien, vous pouvez nous raconter votre histoire, pourquoi êtes-vous parti à un moment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez senti en vous après quelques jours, comment amener les enfants aussi peut-être à voyager à vélo, qu'est-ce que ça vous apporte au niveau de la famille. Ben voilà, on est très curieux, on a envie d'en savoir plus, on a surtout envie de vous lire et de vous entendre, donc n'hésitez pas à nous faire partager vos émotions et vos coups de cœur. Saul, je reviens. Ben nous, on revient dans quelques instants pour parler justement de cet ouvrage Vélo Nomade. Et on recevra également, eh bien, par téléphone deux témoins, deux cyclistes. L'un est parti seul il y a quelques mois de cela et s'apprête à repartir. Puis l'autre part en famille régulièrement, entre autres en Suède. Il sera des nôtres dans quelques instants. Merci d'être avec nous jusqu'à 11h30.
10h, 11h30.
Tendance Première. Cédric Wauthier.
Et l'aventure peut commencer au coin de la rue. C'est en tout cas ce que se disent ceux et celles qui, à un moment, ont enfourché leur bicyclette et ont décidé de découvrir leur quartier, leur pays, leur région ou même l'étranger à vélo. Bonjour Laurent Bellandeau.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous depuis Paris. Vélo Nomade, c'est le titre de ce magnifique bouquin qui est sorti il y a quelques jours chez Tana Édition. Un livre où on va retrouver toute une série de clichés, de photos de vos différents voyages, mais aussi des conseils très très pratiques pour ceux et celles qui ont envie peut-être de tenter l'expérience. Avant de partir, comment choisir et tracer un itinéraire? Est-ce qu'il faut partir seul, en groupe ou en famille? Quel matériel aussi choisir? Quel matériel emporter? Voilà, toute une série de détails que l'on retrouve dans ce livre. Laurent Bellandeau, votre premier voyage à vélo, il s'est passé comment? Vous avez décidé d'aller où?
Ah, mon premier voyage à vélo, il s'est fait un petit peu à l'improviste et mon but était, alors à l'époque j'habitais Paris, mon but était de relier Londres à vélo, tout simplement parce qu'il y avait un événement, une course de vélo à Londres et on s'était dit pourquoi ne pas y aller en vélo. Et là évidemment, j'avais pas du tout la préparation que je pourrais avoir aujourd'hui et ça a été une aventure en soi, aussi bien sur l'organisation que sur le voyage lui-même. Ouais.
Oui, parce que c'est vrai qu'un voyage à vélo, ça se prépare, enfin certains se disent bon, partons à l'aventure. Vous essayez toujours de dire c'est pas mal aussi, surtout dans les premières expériences, de se préparer un peu, choisir un véritable itinéraire et savoir exactement dans quel état de forme on est.
Oui, exactement. Mais après, c'est pas mal aussi d'apprendre à se perdre et de partir un petit peu comme ça, la fleur au fusil. Les deux sont bien. Mais après, le but du livre, effectivement, c'était de donner tous les conseils qui peuvent faire que le voyage va se passer du mieux possible. Et de ce fait, effectivement, la préparation physique en fait partie parce que tous les gens qui pratiquent un petit peu le vélo en amateur savent qu'il y a des douleurs qui peuvent arriver et autant bien se préparer pour pas les avoir et toutes les questions d'organisation également, ou se perdre, éviter de se perdre. Alors il y en a qui aiment bien se perdre en voyage à vélo, ça fait partie du voyage justement de se dire on connaît pas par là, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a, mais voilà. Effectivement.
Et c'est vrai que tout un chacun qui a tenté l'expérience du vélo en ressort un peu changé parce qu'on découvre autre chose. C'est votre cas, Philippe Clinet, puisque vous êtes avec nous par téléphone, je crois. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Cédric.
Alors il y a quelques mois de cela, on va dire que c'était un changement. On passe de la quarantaine à la cinquantaine. On est nombreux à un moment à se dire tiens, qu'est-ce que je veux faire? Voilà, on veut faire le point. Et vous avez décidé de faire le point en prenant votre vélo pour descendre vers Compostelle seul. Qu'est-ce que ça vous a apporté fondamentalement, de passer des journées seules comme ça à vélo, découvrir finalement les paysages et de vous découvrir peut-être?
C'était tout à fait le moment à la quarantaine de faire une petite pause et de se dire, allez, on prend un mois pour soi, on quitte un peu son boulot, on quitte un peu sa vie quotidienne avec les enfants et on prend un mois pour soi tout seul. Et donc là, moi, je suis vraiment parti avec quand même un objectif d'aller jusque Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque en vélo, ça permettait de relier Saint-Jacques en un mois et pas en trois mois comme on peut le faire à pied. Et l'idée était un peu d'avancer et de prendre le temps d'avancer sans forcément d'objectif en termes de distance, en termes de parcours, mais simplement prendre le temps, avancer, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de s'arrêter, si on a envie à midi pendant une heure, ou prendre le temps de s'arrêter pour un bouquin, ou bien le long de la Loire, prendre le temps de regarder la Loire passer, et tout ça, ça permet vraiment de se retrouver et de faire un break par rapport à son quotidien.
Oui, alors quelques mois plus tard, vous refaites le même trajet mais à pied. Quelle est la différence? Est-ce qu'on voyage différemment à vélo ou à pied? Est-ce que ce que l'on ressent est différent?
Alors la différence est évidemment énorme. Quand j'ai fait le voyage la première fois à vélo, ben, il est certain qu'on croise énormément de pèlerins puisqu'on fait pratiquement le même chemin qu'eux et donc on dort dans les mêmes gîtes qu'eux. Ça veut dire qu'en une étape en vélo, ben, on va faire l'équivalent de 3 ou 4 étapes à pied. Et donc ça donne quelque part ben, une certaine distance par rapport ben, à ces gens qu'on ne croise finalement que pour une journée ou que pour une soirée, alors qu'eux, ben, ils cheminent quand même relativement ensemble puisqu'ils parcourent plus ou moins les mêmes distances. Et donc l'expérience est complètement différente puisqu'à pied, forcément, le temps est beaucoup plus lent et le temps de parcours est beaucoup plus lent. Et l'organisation est également différente parce qu'en vélo, s'il faut trouver un logement, parfois on peut encore faire 10 km supplémentaires en vélo. À pied, évidemment, c'est tout autre chose. Donc c'est vraiment deux voyages complètement différents. Et j'étais un petit peu resté sur ma faim en l'ayant fait à vélo. Et donc c'est pour ça que j'ai fait, à ce moment-là, une partie plus courte puisque je suis parti de Porto jusqu'à Saint-Jacques à pied. Ça, j'ai pu faire ça aussi en une quinzaine de jours.
Vous restez avec nous, hein, Philippe, puisque dans quelques jours, ben, vous allez partir avec un ami de nouveau pour un voyage à vélo. On va en reparler dans quelques instants. Laurent Bellando, je rappelle, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Un vélo nomade, un très très beau bouquin qui revient sur toute une série aussi de conseils très très pratiques. À votre avis, les gens que vous rencontrez qui se décident à partir en vélo, c'est parce qu'ils ont besoin, pour beaucoup, de faire le point sur leur vie ou simplement de se dire, j'ai envie un peu de découvrir la vie autrement et de manière plus lente?
Alors je vais répondre juste sur la question du temps. C'est vrai qu'à vélo le temps passe très vite, mais si on se coince le doigt dans la pédale, par contre, il va passer très. pour la petite parenthèse. Non, effectivement, la volonté de partir à vélo, souvent, bah, en ce moment, c'est vrai qu'après le confinement, on est en plein dedans, c'est qu'on a envie de renouer un petit peu avec la nature, de retrouver ce contact avec. Parce que voyager à vélo, effectivement, la comparaison avec la marche, elle est maligne parce que c'est vrai que c'est voyager. Ça veut dire voyager en silence, ça veut dire voilà, être à l'écoute aussi bien des sons de la nature que des odeurs. Et cette reconnexion-là, effectivement, on la ressent pleinement à vélo. Il y a une autre chose qui motive aussi à partir à vélo, c'est qu'on se détache aussi de tous les chemins pré-tracés du tourisme, en fait. Là où, lorsqu'on fait un voyage traditionnellement, on choisit une destination et puis on se rend à la destination, on se préoccupe pas beaucoup du parcours. En fait, à vélo, c'est le chemin qui est la destination, en fait. Le voyage va se passer tout au long du chemin et c'est en ça que on s'éloigne des parcours touristique, puisqu'en fait, quelquefois, lorsqu'on arrive à destination, on a l'impression déjà d'être comblé, d'avoir vu tout ce qu'on avait besoin de voir. Et moi, je vois l'expérience que j'ai eue, c'est que quelquefois, en arrivant sur des lieux qu'on avait un petit peu préparés à l'avance, on s'était dit, tiens, c'est dans les guides, ça a l'air sympa, on va aller voir. Bah, quelquefois, une fois arrivé, on n'avait plus vraiment envie de voir, parce que si je prends l'exemple de Lanzarote, par exemple, on avait prévu de voir un volcan, donc c'était sur les guides. Hein, et puis, au final, on avait passé la matinée à traverser les volcans à vélo, donc on n'a pas eu vraiment envie d'aller visiter, surtout l'entrée était payante. On a continué notre chemin, on était bien mieux. Donc voilà, l'envie, elle est plus une envie de déconnexion, mais à la fois de reconnexion avec la nature. C'est quelque chose d'assez complexe.
Vous vous retrouvez là-dedans, Philippe, dans votre voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle? Est-ce qu'il y a eu une évolution aussi dans cette reconnexion au fil des jours?
je rejoins tout à fait la notion de chemin que l'on parcourt. Et alors, il y a un proverbe à Saint-Jacques qui dit à un moment donné qu'on ne suit plus le chemin, mais on devient le chemin. Alors, c'est une phrase un petit peu qui pose question, en tous les cas, qui peut faire sourire. Eh bien, c'est vraiment la sensation que l'on a, en fait, quand on le fait, parce qu'à un moment donné, c'est plus forcément l'objectif qui compte, c'est simplement de cheminer sur le parcours et finalement, de quelque part, ne faire qu'un, puisqu'on avance kilomètre par kilomètre, jour par jour, sans plus forcément se préoccuper du but final. Et d'ailleurs, c'est ça qui est fort frustrant, c'est au moment où on arrive, en fait, parce qu'à ce moment-là, ben, tout s'arrête, et là, on doit retourner dans une vraie réalité qui est assez compliquée. Pour moi, le retour était assez compliqué, puisque je vivais un rythme complètement différent, alors que j'étais retourné dans la vie active professionnelle.
Et justement, est-ce que ça a changé quelque chose ?
Ça a changé beaucoup de choses sur la façon de pouvoir prendre le temps et de pouvoir s'arrêter de temps en temps dans le rythme effréné de la vie qu'on a. Et on peut parfois aussi comparer la situation qu'on vient de vivre avec le Covid qui a permis d'arrêter le temps pour beaucoup de personnes. C'est peut-être le seul côté positif de cette maladie. Mais malheureusement, après un certain temps, ben, la vie reprend son cours et le rythme quotidien reprend son cours. Mais en tous les cas, c'est toujours quelque part dans l'esprit et ça donne envie de recommencer.
Philippe, dans quelques jours, vous partez avec un ami. Ça veut dire que quoi, ça vous a manqué à un moment une présence de quelqu'un d'autre avec vous sur tout ce chemin ?
Non, la présence de quelqu'un ne m'a pas manqué, absolument pas. Ici, c'était une opportunité d'un ami qui aussi avait besoin de prendre un peu de recul, un ami italien, et qui m'a proposé de descendre une partie de l'Italie jusqu'à Rome à deux en vélo. Et c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de partager la même chose, mais de le faire ensemble, sans forcément avoir besoin de parler toute la journée. Et c'est ça qui peut être riche aussi dans cette façon de cheminer. Je pourrais vous en parler plus à mon retour.
Bien, vous viendrez nous en reparler à votre retour. On croise les doigts, évidemment, pour ce périple. Merci beaucoup, Philippe Clinet. Et puis, bon voyage, comme on dit tout
merci
simplement.
Frédéric.
Laurent Bélandeau, une des premières questions que l'on doit se poser quand on veut partir à vélo, ça paraît tout bête, mais ce n'est pas si simple. C'est, quel vélo est-ce que je prends ? Est-ce que tout type de vélo est adapté véritablement au voyage à vélo ?
Ah, la fameuse question. Alors, ben moi, oui. Je ne l'ai volontairement pas mise en premier dans le livre. Parce que en réalité, on peut très bien partir avec le vélo qu'on a dans son garage. En fait, on peut partir avec n'importe quel vélo. Le vélo, c'est pas ce qui va déterminer véritablement la qualité de votre voyage. Après, c'est vrai que plus vous allez partir sur un équipement adapté, alors que ce soit un vélo de randonnée, si vous avez prévu de faire de la route, de la piste cyclable, ou un vélo un peu plus polyvalent, ou un vélo VTT, si vous avez prévu de faire essentiellement du chemin. Voilà, on peut optimiser comme ça son confort et puis du coup parcourir plus de kilomètres avec un vélo qui va être bien préparé, mais en réalité il faut pas que ce soit un frein. Et vraiment le vélo que vous avez dans votre garage, une petite révision, un petit passage chez votre vélociste pour l'équiper, l'améliorer un petit peu, changer les pneus, vérifier les freins, et déjà ce vélo il va vous permettre de faire un très beau voyage. Donc c'est pas la question essentielle. Il y a des choses qui sont prioritaires, c'est-à-dire que plutôt que se préoccuper du vélo au début, peut-être qu'il va falloir se renseigner sur comment y harnacher des sacoches, s'équiper en sacoches pour pouvoir transporter un petit peu d'affaires, sachant que moi je déconseille vraiment fortement le sac à dos, hein, c'est pas du tout adapté au vélo. Donc vraiment la question des sacoches par exemple doit venir avant celle du choix du vélo. Mais effectivement j'en parle beaucoup dans le livre parce que c'est une question récurrente, le vélo, il faut avoir un vélo qui roule bien, sur lequel on se sente bien. Il faut pas faire d'économie sur le vélo non plus. Voilà, c'est pas ce que je veux dire, mais on peut y aller progressivement et déjà essayer l'aventure avec son vélo du quotidien.
Et puis c'est bon quand même de rappeler qu'il y a toute une série d'itinéraires à travers l'Europe. Il y a plein de sites, il y a plein de tutos qui expliquent aussi comment et où partir avec des itinéraires. On en retrouvera quelques-uns des itinéraires dans cet ouvrage Vélo Nomade. Vous restez avec nous, Laurent Bélandeau. Dans quelques instants, on va parler de voyage à vélo, mais en famille aussi. Et puis on a un témoignage qui nous est arrivé. Nous sommes rentrés hier d'avoir terminé en couple à plus de 70 ans la Vélodyssée, 1600 km à vélo de Roscoff en Bretagne à Andeille, à la frontière espagnole. En trois tranches annuelles, c'était fantastique. On peut en parler quand vous voulez. Eh bien, vous viendrez en parler, si vous le voulez bien, Michel, en troisième partie d'émission, parce qu'on va vous appeler en troisième partie d'émission pour avoir justement, eh bien, votre retour d'expérience. Laurent, vous restez des nôtres. On va poursuivre ce dossier du jour. Vous n'hésitez pas. Vous nous faites part de vos questions, de vos commentaires. On a une question très, très précise qui nous est arrivée. Je vous la lis parce que c'est vrai qu'elle fait partie des questions primordiales. Petit problème qui devient grand problème dont personne ne parle et qui m'empêche de réaliser de grandes randonnées, mais pas que moi. C'est le mal au fait. Pourriez-vous conseiller de bonnes selles? Eh bien, Laurent, vous allez nous donner quelques conseils juste après ceci.
Tendance première.
Oui, nous voyageons aujourd'hui, nous voyageons à vélo. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à vous lancer dans cette aventure, que ce soit dans des régions proches ou un petit peu plus loin pour en parler. On a en duplex aujourd'hui depuis Paris, Laurent Bellandeau, auteur de cet ouvrage « Vélo nomade, du cyclotourisme au bikepacking ». On va répondre à cette question très précise, Laurent, parce que c'est vrai que ça fait partie aussi des grandes questions que l'on se pose quand on fait un peu de vélo et qu'on a mal aux fesses. Ben, comment on fait pour ne pas avoir mal aux fesses à vélo?
Alors c'est un problème central, sans jeu de mots. Effectivement. Le mal aux fesses, il faut voir que effectivement, s'il y a la première chose à choisir sur son vélo, ça va être la selle. Et à chaque personne correspond une selle. Donc c'est très difficile de donner une selle type qui va convenir à tout le monde. Il faut essayer. Il faut savoir que les femmes, par exemple, ayant un bassin un peu plus large, ont besoin d'une selle adaptée aux femmes. Donc il y a des selles spécifiques pour les femmes. Ensuite, certaines personnes vont apprécier ce qu'on appelle la décharge pyrénéenne, excusez-moi, qui permet c'est un trou au milieu de la selle qui va justement éviter d'appuyer sur cette partie du corps. Et d'autres personnes comme moi, par exemple, j'apprécie de rouler avec des selles en cuir. Alors les selles en cuir vont avoir tendance finalement à prendre la forme au fil des kilomètres, la forme de votre bassin, et du coup deviennent très confortables avec le temps. Vraiment, les selles, il faut d'une part, pas voir à l'économie. Il faut pas hésiter à mettre l'argent qu'il faut. Alors l'idéal, c'est de pouvoir les essayer. Ça, c'est pas toujours possible. Il faut négocier avec votre vélociste. C'est ce que je voulais dire.
C'est bien finalement. Laurent Bellandeau, vous êtes parti régulièrement seul. Vous consacrez aussi un chapitre de ce livre au voyage en famille. Vous dites, en fait, on peut partir très vite en famille à vélo.
Ah oui, bien sûr. Bon, il faut avoir fait peut-être, je pense, l'expérience d'un ou deux voyages déjà avant, seul ou en couple, avant de se lancer dans l'aventure. Mais bien sûr, les enfants s'adaptent complètement et au contraire apprécient. Moi, tous les voyageurs que j'ai interrogés et avec qui j'ai fait un bout de chemin pour mon livre, tous les voyageurs qui voyageaient en famille sont unanimes, en fait. C'est vrai que c'est l'école de la vie. Ça permet aux enfants de découvrir tout un tas de choses de façon complètement ludique. Il n'y a pas de quand est-ce qu'on arrive à vélo, en fait. On peut s'arrêter quand on veut. L'enfant se sent libre et profite pleinement des paysages qu'il découvre. Donc ça, de ce point de vue-là, il ne faut pas hésiter. Surtout que c'est très simple. Il existe des tonnes d'équipements pour les familles qui permettent de transporter du plus jeune à l'adolescent, en fait, à vélo. Donc oui, il ne faut pas hésiter.
Justement, on va parler de ces voyages en famille, entre autres, avec un autre invité, François Struzik, par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes photographe, vous êtes entre autres l'auteur d'un petit bouquin, L'échappée transwallonne, dont on va parler dans quelques instants, co-auteur de cet ouvrage. Alors, je ne sais pas très bien si vous êtes en Belgique ou en Suède pour l'instant.
Non, moi, je viens d'arriver à Göteborg, donc je sors du ferry et je suis en Suède.
Et vous êtes parti en famille à nouveau et à vélo. Vous pouvez me rappeler un peu la première expérience en famille, dans quel état d'esprit vous étiez, quel était l'âge de vos enfants et comment ça s'est passé?
À vélo, je n'ai pas tellement voyagé en famille. J'ai surtout voyagé seul, mais en famille, on a surtout fait de la randonnée, etc. Mais on a développé l'échappée transwallonne parce que justement, il y avait cette demande, en fait, de voyage plus proche. Et le fait de démarrer en Wallonie, ça permettait peut-être d'avoir moins peur, de se rassurer, de connaître des repères. C'est pour ça qu'on avait développé cette échappée transwallonne, donc il y a un tour de Wallonie et qui passe dans les pays limitrophes.
Mais justement, quand on voyage en famille à vélo, qu'est-ce que ça apporte à la fois au père que vous êtes, mais aussi dans le contact que l'on peut avoir avec ses enfants?
Mais moi, mes enfants sont grands. Donc, mais ce qui est quand même bien, c'est qu'on doit s'adapter déjà au rythme de ses enfants. Parce que même s'ils sont grands, ils ont parfois un rythme de pédalage qui est différent. Et puis, le fait que quand on pédale, en fait, on pense à autre chose. Et donc, quand on s'arrête, on pense à regarder des choses. Le fait de rouler, ça permet d'être plus connecté, en fait, au territoire, plus connecté à ce qu'on voit, on observe. C'est peut-être différent de la marche, où on est parfois plus axé sur l'effort physique, si par exemple c'est un terrain qui est difficile, ou si le sac est lourd. Mais à vélo, on peut vraiment adapter son rythme pour adapter ça à sa condition physique. Et du coup, je trouve qu'on est beaucoup plus connecté à ce qu'on regarde. Et du coup, on est connecté plus avec les gens avec qui on pédale, en fait.
Mmh. Laurent Bellando, vous le disiez, on peut partir très tôt à vélo. C'est vrai qu'il y a toute une série de systèmes qui permettent de transporter les très jeunes enfants ou de leur permettre eh bien, de suivre sur une sorte de vélo sans qu'ils aient trop d'efforts à fournir. À partir de quel moment est-ce qu'on peut vraiment leur donner un vélo et quel est le nombre de kilomètres qu'on peut faire avec un enfant de 6, 7 ou 8 ans?
Alors... déjà, à 6, 7, 8 ans, on peut leur donner un petit vélo. Il va falloir évidemment adapter les distances en fonction de ça. Les enfants sont bourrés d'énergie. Hein. Mm-hmm. Donc, ils auront pas de mal à faire cette distance. On va dire 30 kilomètres pour un enfant de cet âge-là. C'est tout à fait faisable, en fait. Hein. Là-dessus, il y a aucun problème. Ouais. Après, les adolescents, eux, on peut rallonger un petit peu les distances. Ils seront de toute façon un peu moins endurants que les adultes. Il faut réduire les distances. Hein. Mais les enfants, au contraire, ils y prennent goût. Hein. Ils suivent. Hein. Et sinon, il y a des solutions qui existent aussi où on peut raccrocher le vélo pour les plus jeunes, on va dire, mais qui ont déjà leur vélo. On peut raccrocher le vélo au vélo des adultes comme une sorte de remorque. En fait, on transforme le vélo en remorque. Ça s'appelle un follow me, si les gens veulent se renseigner. Mm-hmm. Et ça permet effectivement à l'enfant d'être à la fois sur son vélo, d'avoir le sentiment de pédaler quand il a envie, et puis aussi de se laisser tirer le reste du temps. Donc ça, c'est des bonnes solutions aussi.
François Struzic, dans votre échappée Transwallonne, vous proposez une série d'itinéraires ici en Wallonie. Ça veut dire que vous répondez à une véritable demande, vous le ressentez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se disent « moi j'ai envie de tester le vélo, j'ai envie de découvrir mon pays, j'ai envie de découvrir la région que je ne connais pas ».
Voilà, surtout le constat de base, c'est que la Wallonie bénéficie d'un équipement qui est vraiment fabuleux. Donc on a beaucoup de ravelles, on a beaucoup de pistes cyclables, on a déjà un super territoire cyclable, mais il nous semblait en tout cas qu'il n'y avait pas d'histoire qui se racontait autour de ça. C'est pour ça qu'on a créé cette échappée Transwallonne qui finalement ne fait que rassembler une série d'itinéraires existants, donc des ravelles le long de la Meuse, la Venban, des Eurovélos, etc., qui sont vraiment super bien balisé, et qu'on a rassemblé en une boucle de 430 km qui est accessible via différentes gares. Et effectivement, surtout avec le confinement et le fait qu'on puisse plus difficilement partir à l'étranger, les gens se sont rendus compte, mais en fait, oui, près de chez moi, il y a de quoi rouler, en fait. Il y a de quoi rouler. Et c'est pas seulement une contrainte qu'on se met de ne pas rouler à l'étranger. C'est, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un chouette territoire cyclable en Wallonie.
Et qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne connaît pas suffisamment.
Et d'ailleurs, moi, il y a...
Oui. On connaît assez peu encore. Il y a deux jours, je suis allé faire un ravel qui démarre de Thouin. J'avais même pas l'idée qu'il y avait un ravel qui démarrait de là, mais c'était juste magnifique, en fait. La Haute-Sambre est magnifique. Le remonter Thouin vers Beaumont, c'est magnifique. Et je n'avais même pas d'idée, alors que c'est peut-être à 40 km de chez moi qu'il y avait ça.
Oui.
Et je suis curieux. Donc, j'imagine que pour plein de gens, ils vont découvrir que la Wallonie est un super territoire cyclable.
Laurent Bellando, vous vouliez réagir ?
Oui, d'ailleurs, j'ai fait un très beau voyage dans les Ardennes belges, qui est dans le livre, justement. Qui était super, effectivement, complètement gravel, c'était génial.
Mais justement, vous qui avez beaucoup voyagé à travers le monde, Laurent Bellando, qu'est-ce que vous découvrez quand vous arrivez en Belgique et dans les Ardennes? Qu'est-ce qu'il y a de typique? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Français que vous êtes?
Alors moi, je connaissais déjà parce que j'adore la Belgique.
c'est un bon point.
Là, moi, alors pour le coup, c'était un voyage un peu particulier, les Ardennes, parce que c'est ce que j'ai découvert, c'est vraiment les forêts à perte de vue. Donc là, pour le coup, avec la connexion culturelle, ne c'est pas forcément en fait tous les jours, mais les petits villages typiques de la région, évidemment les bières belges, puisqu'on est passé pas loin de, bon, je sais pas, on va pas dire le nom de la marque, mais on est passé pas loin d'une brasserie, la vedette, et donc du coup, on a.
En Belgique, si vous voulez goûter des vraies bonnes bières belges, il va falloir revenir en Belgique.
Oui, non, mais je les connais, hein, vous inquiétez pas.
Ça va alors.
Il faut savoir que la bière, c'est l'énergie des cyclistes. Hein, donc
Ah bon donc, je crois que c'était l'inverse, moi.
Et le café. et le café.
La bière et le café, c'est vrai?
Ah, bah, moi, oui. C'est le café, en tout cas.
Voilà. Moi, après une grosse journée de vélo, il me faut une bonne bière fraîche, ouais. pour me ressourcer.
Ouais, après la journée. François, vous, en Suède, qu'est-ce que vous vivez avec vos enfants? Est-ce que c'est aussi un dépaysement total, puisque vous êtes arrivé hier, c'est bien ça, en Suède?
Oui, mais bon, je connais assez bien la région. Ça fait quand même quelques dizaines d'années que je viens. Mais à vélo, par exemple, ici, ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup de routes qui ne sont pas macadamisées. Dans la campagne, la majorité des routes ne sont pas macadamisées. Et donc, ça fait l'espèce de gravel, mais qui sont des centaines de kilomètres de route. Donc, en gravier, en gravel, qui sont très bien. Et donc, c'est vraiment chouette pour rouler. En plus, il y a beaucoup de lacs qui sont très accessibles et où il n'y a personne, strictement personne. Donc ça, c'est chouette, c'est la solitude, le fait de profiter de longues routes calmes où il y a très, très peu de trafic. Et puis, voilà, ça monte, ça descend. Il y a quand même des changements de paysage qui sont assez, assez impressionnants. Donc ça, c'est ça qui est chouette, en fait. Le calme, les routes.
Vous donnez envie, François. C'est pas bien de nous donner envie alors que nous sommes en Belgique pour l'instant. Mais on va découvrir la Belgique autrement.
L'année prochaine, vous pourrez venir en Suède et découvrir ça. Il n'y a jamais grand monde ici.
Ben d'accord, pari tenu. François Struzik, je rappelle, L'échappée à Transvallen, c'est donc le titre de votre ouvrage dont vous êtes co-auteur. On peut se le procurer un peu partout?
Oui, donc je suis co-auteur avec Cédric Maillard et on peut se trouver ce livre chez Provélo, dans les bonnes librairies, les librairies de voyage, et c'est disponible presque dans toute la Wallonie et à Bruxelles.
Eh bien, n'hésitez pas à découvrir la Belgique et la Wallonie en particulier. On le dit depuis le début de la saison, on essaye tous les jours dans nos rendez-vous, nos retrouvailles, de vous donner quelques idées, parce que c'est vrai que ce pays, il est beau, on le connaît pas suffisamment, et le découvrir à vélo, c'est peut-être une solution, l'échappée Transwallonne. Merci beaucoup François et bonnes vacances.
Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Laurent Bélandeau, autre question essentielle, c'est le matériel que l'on peut emporter quand on part par exemple seul à vélo. Il ne faut pas que ce soit trop lourd, il existe du matériel très très léger, mais c'est quoi le principe de base du matériel que l'on doit ou non prendre?
Alors, le principe de base... En fait, le principe de base, il est très simple. Et d'ailleurs, ça peut se résumer à une phrase qui est sur la bouche de beaucoup de cyclistes. C'est que si c'est au cas où, en général, c'est que c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que on va quelquefois on prend des choses au cas où, vous voyez, et on se dit bon, c'est pas grave de le prendre. Mais à vélo, tout ce qu'on va prendre dans les sacoches a son importance, puisque ça va alourdir le vélo, et donc de ce fait, ça va ralentir le rythme, et évidemment, ça va se ressentir particulièrement dans les côtes, dans les montées. Donc le principe de base, il va être effectivement le poids, même si c'est pas une course au poids, on fait pas la compétition, mais c'est vrai que plus on va avoir des équipements légers, alors on peut aller dans les rayons spécialisés pour le trekking par exemple, où là la problématique est la même. C'est vrai que tout ce qui est ultra léger, type matelas ultra léger si on a prévu de dormir dehors, tente ultra légère, donc ça c'est pour tout ce qui est, on va dire, matériel de tous les jours. Et pour tout ce qui est habillement, il va falloir préférer des matériaux qui vont être respirants et qui vont pas retenir l'humidité. Par exemple, tous les matériaux en laine mérino ont cette faculté-là. C'est vrai qu'ils vont être extrêmement respirants, donc ils vont pas garder l'odeur de transpiration, par exemple. Tout ce genre de désagrément, en fait, disparaît en investissant un petit peu dans du matériel adapté comme ça. Et c'est pour ça aussi que, encore une fois, par rapport à cette question, par rapport au choix du vélo, il ne faut pas tout dépenser dans le vélo, parce qu'il y a plein d'éléments qu'on va emmener dont va dépendre la qualité du voyage. Et c'est vrai que si on est bien équipé, si on a des sacoches légères remplies avec du matériel léger et des habits respirants, le voyage ne va pas être le même que si on a pris du coton, par exemple. C'est un très mauvais choix. Le coton va garder l'humidité et on va avoir soit chaud, soit froid, parce qu'une fois que le tissu est mouillé, un courant d'air. Et si vous me permettez juste de rajouter, parce que tout à l'heure, c'est quand même une question importante, l'histoire du mal aux fesses. Et j'aimerais juste terminer sur le fait que, parce que c'est ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que ce qui compte aussi, c'est pas tellement... la selle est importante, c'est vrai, mais c'est souvent quand on a mal aux fesses, c'est aussi une question de réglage du vélo. C'est-à-dire qu'on a une position qui fait qu'on a finalement on n'est pas bien assis sur le vélo, on est soit trop loin, soit trop près, soit trop haut, soit trop bas. Et là, c'est important aussi de faire appel à un professionnel pour se faire conseiller là-dessus, pour vérifier que le vélo est bien à notre taille. Et Et ça, c'est vrai que ça va permettre de réduire les douleurs aussi au postérieur.
Bref, bien choisir son matériel en lisant bien, mais convenablement, évidemment, tous les chapitres que vous consacrez, entre autres, à cela. Chapitres que vous consacrez mais également à toute une série d'itinéraires à découvrir. Où dormir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est un guide très, très pratique, illustré de formidables photos. Laurent Bellando, c'était important aussi d'amener ce côté, en 30 secondes, ce côté un peu joli à ce livre. Ne pas faire qu'un guide pratique banal.
Ah bah oui, pour moi c'était important parce que c'est en fait c'est mon métier. Je suis avant tout moi je suis directeur artistique, donc je fais beaucoup de photos et c'était en fait moi je suis rentré par ce biais-là, si vous voulez, dans le monde de l'édition. Donc c'était très très important pour moi effectivement de faire un bel objet avec de belles photos, d'autant que je pense que ça compte aussi dans le fait de donner envie de voyager. C'est aussi de donner à voir ce qu'on peut découvrir en voyage à vélo. Et donc oui, c'était très important pour moi.
Ben voilà, vous donnez en tout cas envie de tenter l'expérience, d'oser enfin, de se dire, allez, cette fois-ci j'arrête de le dire, je vais le faire, je vais m'y mettre, je vais partir à la découverte, ben d'abord peut-être de la région voisine, et puis peut-être élargir un petit peu. Je vais dire à mes enfants qu'on y est, maintenant on arrête de le dire, on va le faire. Vélo Nomade, c'est donc le titre de votre ouvrage. Laurent Bellando, vous restez avec nous, puisque dans quelques instants ce seront les informations de 11h, puis on en reparlera en troisième partie d'émission.
La première,
l'esprit clair.
Voilà, troisième partie de notre dossier du jour, consacré aujourd'hui au voyage à vélo avec Laurent Bellando, auteur de cet ouvrage Vélo Nomade, du cyclotourisme au bikepacking. On a beaucoup, beaucoup de témoignages qui nous arrivent au 60-31 ou encore sur la page de Tendance Première. Je vais en lire quelques-uns. Bonjour, nous avons fait à Paris-Londres à vélo en 2013. Ça reste un des meilleurs voyages que nous avons passé jusqu'à présent. Je me souviens de ma compagne le premier jour qui jetait son vélo par terre en disant que j'avais vraiment que des idées à la con. Nous avons bien fait de continuer car nous avons découvert quelque chose d'excellent. Nous avons en tout cas un excellent souvenir. Nous avons rencontré des gens formidables. Voilà le témoignage qui nous est arrivé. On en a beaucoup, beaucoup de souvenirs qui nous arrivent. Donc n'hésitez pas à encore nous envoyer des messages ou des questions par SMS au 6031, par courriel la tendance première @rtbf.be ou encore sur la page Facebook de l'émission.
Tendance Première, Cédric Gauthier.
Les rencontres, hein, Laurent Bellando, c'est vraiment quelque chose qui revient dans tous les témoignages que l'on reçoit. Toute une série d'auditeurs et auditrices nous disent « ça m'a permis de rencontrer les gens ».
Ah bah oui, vous voyez, on parlait de reconnexion tout à l'heure. C'est vrai qu'elle se fait avec la nature, mais elle se fait avec les gens aussi. Et moi, il s'est jamais passé un voyage sans avoir un souvenir de rencontre, en fait, parce que il y a pas de filtre avec le vélo, il y a pas de barrière qui nous coupe des villages qu'on traverse, des gens qu'on rencontre, et on est spontanément au contact des gens, et eux-mêmes ont plein de questions, sont curieux, et il y a un capital sympathie chez le cycliste. Alors je sais pas d'où de quel fait, mais en tout cas aujourd'hui, quelqu'un qui arriverait en vélo n'a pas le même accueil que quelqu'un qui arriverait en voiture. On part un peu du principe que quelqu'un à vélo peut pas être mauvais par définition. Et c'est vrai que les gens sont incroyables. Ils sont d'une générosité rare. C'est très fréquent qu'on propose aussi bien le gîte que le couvert à des voyageurs à vélo. Ça fait partie du voyage à vélo, effectivement.
Alors, je vous cite quelques-uns des messages que l'on reçoit qui vont tous à peu près dans le même sens. J'en lis un premier d'Amandine. Nous revenons d'un périple à vélo en famille à travers le Hainaut et Namur. Expérience merveilleuse, 310 km avec des enfants de 8 et 10 ans qui ont roulé et une de 5 ans qui a voyagé dans un siège vélo. Le beau temps a aidé à refaire au plus vite, voilà le témoignage d'Amandine. L'échappée Transwallonne, je l'ai testé, vécu et approuvé. C'est un message de Catherine Dolory. On a aussi ce message qui nous arrive d'Olivier. Mon fils de 21 ans, accompagné de son ami d'enfance, est parti pour le quatrième été à vélo. Cette année, de Jean Blou à 7, le premier voyage Jean Blou Sonderborg fut plein de surprises, mais pour rien au monde, il nous louperait ses vacances au Grand Air. Puis alors, on a des questions plus précises aussi qui nous arrivent. Laurent Bellando, et je vais vous les poser parce que c'est vrai que ça fait partie aussi de l'univers et des risques d'un voyage à vélo. Quid du vol de vélo ou de sacoche? En avez-vous été victime? Il n'existe pas ou peu de parking sécurisé ou de points où le poser. Avez-vous des statistiques? Quid des assurances? Existe-t-il un dépannage de type touring secours? Ça, c'est en Belgique, mais donc assistance dépannage pour les vélos.
Alors, en voyage à vélo, en général, on s'écarte rarement très longtemps de son vélo, voire quasiment pas. Donc c'est vrai que le vol, bon, il peut arriver, hein, s'il y a un moment un manque de vigilance ou un excès de confiance. Souvent c'est quand on arrive sur les grandes villes, en fait. Moi, les témoignages que j'ai de vol de vélo, qui sont très rares, hein, je tiens à le préciser, en tout cas en voyage, hein, c'est souvent, voilà, on a fait un beau voyage, on arrive, on est à un jour de reprendre le train pour rentrer chez soi. Et là, bah, on se pose à une terrasse et puis on oublie un petit peu que quelquefois ça, le vol peut arriver en ville. Et c'est à ce moment-là que le drame arrive. Alors oui, il existe des assurances. Hein. Certaines compagnies, même régulières, proposent des assurances vol-vélo. Après, pour ce qui est de l'assistance, il existe des choses. Alors je ne serais peut-être pas la personne la plus qualifiée pour vous dire ce qui existe, notamment en Belgique. Mais je sais que pour les grands voyageurs, ceux qui envisagent des voyages à travers le monde, il existe certaines choses, mais là-dessus, je m'égarerai en vous disant que je m'y connais beaucoup.
Alors, on a reçu il y a quelques minutes ce message de Michel qui nous disait qu'à 70 ans, il venait de rentrer d'un périple qui s'appelle la Vélodyssée. Alors, on va essayer de joindre Michel par téléphone, puisqu'il nous a donné son numéro de téléphone. Je ne sais pas si on a Michel par téléphone. Ah ben voilà, on vous a Michel. Bonjour Michel, Plick.
Je suis là.
Eh bien, ravi de vous entendre. Puisque vous nous avez envoyé ce message, vous rentrez d'un périple en couple à plus de 70 ans qui s'appelait la Vélodyssée, 1600 km à vélo de Roscoff en Bretagne, jusqu'à la frontière espagnole. Racontez-moi ce qui vous a poussé à le faire et ce que vous tirez finalement de cette expérience.
Alors, nous aimons les déplacements doux. Nous avons commencé par partir à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied et en vélo, suivant le relief. Quand ça montait, on marchait, mais on est parti de chez nous en vélo. Et ça nous a fait découvrir la France sous un autre angle. On traverse généralement la France par autoroute, on voit rien, sinon des stations-service. Et là, on a vraiment été à la rencontre des gens, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, en choisissant la formule qui est la plus adaptée, me semble-t-il, c'est la chambre d'hôte pour les hébergements. Mais c'est aussi les petits commerces, c'est les fontaines, c'est les lavoirs, c'est le GR. Voilà, on n'a pas parlé encore du GR. Nous avons eu la chance. On a choisi dès le départ de partir à Saint-Jacques-de-Compostelle par le GR à vélo. Alors là, ça nous fait marcher évidemment à peu près 20% du temps parce que le GR n'est pas idéal pour les vélos. Et puis après Saint-Jacques-de-Compostelle qu'on a fait en 7 années, des tranches de 15 jours, voyage compris, on s'est pris au plaisir et on a fait plusieurs autres itinéraires comme par exemple l'Eurovélo numéro 6 hein, qui part de Constanța en Roumanie jusqu'à Saint-Brézin, l'estuaire de la Loire, mais on a fait par section seulement de Bâle à Nuit-Saint-Georges, par exemple, ou bien la Loire. Et puis, on a fait la Vélodyssée, effectivement, pour y arriver. On est parti il y a 2 ans et on y est arrivé avant-hier. Oui. Et voilà, on est de retour. Et la Vélodyssée, c'est un parcours magnifique parce que très varié. On traverse la Bretagne, pas par la côte, mais par l'intérieur, ce qui est moins connu. Par un ravel et par des voies vertes, le long du canal de Brest à Nantes. Et puis une deuxième tranche l'an dernier, ça c'est la Vendée, ça c'est magnifique, c'est des belles plages. Et puis cette année-ci, c'est tout à fait différent, ce sont des pinèdes. C'est les Landes, c'est formidable, c'est plat, sauf les 2-3 dernières étapes, quand on arrive du côté de Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, etc., où là, ça monte. La dernière étape était la plus dure. Voilà.
Michel, vous avez insisté dans le message sur votre âge, hein, 70 ans, donc on peut se poser la question, est-ce que vous aviez un entraînement physique bien particulier, puisqu'on a parlé du voyage avec les tout-petits, mais c'est vrai que les seniors aussi voyagent à vélo. Est-ce qu'il faut s'entraîner?
Alors, on est des adeptes du vélo, mais je dirais que moi, je ne vais plus au boulot en vélo. Hein. Mais on s'est entraîné une semaine en partant en Gaume. Donc on a fait une semaine en Gaume, où là ça monte et ça descend quand même un peu plus que sur la Vélodyssée. Et on est parti de Gaume directement sur Royan. Et on est parti de Royan samedi. Alors il faut un entraînement physique. Bon, si vous faites du jardinage, si vous marchez 3-4 kilomètres par jour, ça suffit complètement.
Merci beaucoup Michel, merci pour ce témoignage et c'était important en effet de vous donner une voix aussi parce qu'on a peut-être trop tendance lorsqu'on évoque les voyages à vélo, mais d'oublier les seniors qui sont nombreux. Il suffit de voir le long des voies cyclistes qu'il y a pas mal de seniors qui se disent ben moi j'y vais aussi, j'ai la condition, il n'y a pas de raison que je laisse ça aux petits jeunes. Pardon Michel ?
Oui, on aurait pu le faire avec les enfants. Alors ça, c'est une recommandation. Si vous le faites en famille, c'est tout à fait possible, comme d'autres personnes l'ont évoqué tout à l'heure. Mais il faut pas attendre qu'ils soient trop âgés. Donc, effectivement, 10, 12 ans, c'est très bien pour leur faire découvrir la nature et les gens. Voilà. Oui. Nous, on l'a pas fait. On l'a fait plus tard. Mais voilà.
Il n'est jamais trop tard. Merci beaucoup Michel Plec pour ce témoignage. Laurent Bellando, dans ce guide Vélo Nomade, vous proposez aussi une série d'itinéraires avec là aussi des formes différentes, avec aussi des profils de cyclotouristes bien différents. Ça va du cyclotouriste entraîné à celui qui à un moment se dit, ou celle qui se dit, moi j'y vais, j'ai jamais testé, j'ose.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, la Vélodyssée est dans les 10 itinéraires présents dans le livre. Et moi-même, j'habite à Biarritz, donc je suis sur l'itinéraire de la Vélodyssée. Donc c'est un itinéraire que je connais bien. Et oui, alors le but, c'était de proposer... Alors, comme on ne peut pas vraiment dire quel est la meilleure itinéraire pour faire du voyage à vélo, puisqu'il n'y en a pas, par définition, hein, la meilleure, c'est celle qui commence de sa porte et qui va on ne sait où. J'ai voulu prendre 10 itinéraires en prenant à chaque fois 10 groupes de personnes ou personnes avec des profils complètement différents. Et effectivement, dans le cas de la Vélodyssée, c'était un couple avec une carriole, avec leur enfant dans la carriole. Mais j'ai aussi bien dans le livre des témoignages de gens qui ont voyagé seuls, qui ont fait la Via Rhôna, par exemple, seuls, ou d'autres qui sont partis à l'aventure en VTT dans le Massif Central, par exemple. Il y a une trace qui est très célèbre qui s'appelle la grande traversée du Massif Central, qui est très exigeante, du coup, qui là on est sur un autre niveau de cyclisme. Et par rapport à, c'est vrai, à l'intervention précédente, c'est que on n'a pas besoin d'être un grand cycliste pour partir voyager en vélo, en fait. La variable, ça va être la distance. C'est-à-dire que si on n'a pas l'habitude de faire beaucoup de vélo, on peut faire très facilement, mais vraiment très facilement, il faut me faire confiance, 30 km par jour. Et déjà, avec 30 km, on voyage, hein, on voit beaucoup de paysages, etc. Par exemple, si vous allez travailler à vélo, vous faites environ... Vous les faites environ, ces 30 km par jour. Donc, vous allez être capable de les faire sur une journée de vélo en voyage et même, vous allez vous surprendre à pouvoir faire plus sans difficulté.
Laurent, votre prochain voyage en 15 secondes, ce sera vers où ?
Ah, alors ça va être des voyages courts, parce que moi je suis un adepte des voyages courts. Le prochain, ça va être en Suisse. Je vais tester un itinéraire que j'ai trouvé sur un site internet qui s'appelle bikepacking.com et qui me fait très envie. Et quasiment de suite après, on va faire un itinéraire aussi en Espagne, dans la région de Valence. Donc c'est des petits itinéraires sur 4-5 jours. Voilà, et en gravel. Moi, je suis un adepte du gravel. J'aime bien, en fait, ce qui est génial avec la Vélodyssée, toujours pour revenir sur l'intervention précédente, c'est que c'est un itinéraire qui est complètement sécurisé. On est isolé des voitures, en fait. Et donc ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui fait du vélo, c'est un vrai plus parce que les voitures sont source de bruit, de pollution évidemment, et aussi de danger quelquefois malheureusement. Et donc le fait soit de prendre une piste cyclable, soit de sortir des routes et de prendre les chemins permet effectivement de s'extraire de la circulation et des voitures et de découvrir encore plus, de façon encore plus intense le voyage. Donc voilà, c'est ces deux itinéraires que j'ai prévu de faire là en août et en septembre, ça va être des itinéraires gravel, c'est-à-dire sur des chemins forestiers.
Merci beaucoup Laurent Bellando. Je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est Vélo Nomade, du cyclotourisme au bikepacking. Vous avez justement cité quelques sites internet. Il y en a pas mal qui sont référencés dans ce livre pour essayer de préparer au mieux, pour essayer de trouver l'itinéraire qui vous convient le mieux. Et si vous voulez rester en Belgique, il y a aussi ce livre, L'échappée transwallonne, qui est édité par hikeup.be, qui est aussi bien une association dont on va parler dans les prochains jours, un itinéraire cycliste ici en Wallonie pour ceux et celles qui ont envie de découvrir la Belgique, mais aussi de se lancer peut-être dans cette aventure. Toutes les références, évidemment, on les retrouvera dans quelques minutes sur la page Facebook de l'émission.
Tendance première,
Cédric Wautier.